Qui a dit que le livre était mort ? Certainement pas les élèves de CM2 de l'école de Riom de la classe de Madame Sandrine Dubos. Le jeudi 19 octobre, ils recevaient Christian Grenier, auteur de livres pour enfants comme « Les Robinsons de la Galaxie » et « Virus Live » ou « La mort des livres ». Christian Grenier nous parle des livres, de ceux qu'il a écrits, de ceux des autres, de ceux qu'il lit et qu'il est en train de lire. Lecteur passionné et auteur passionnant, il nous donne envie de lire.
Bonjour Monsieur Grenier, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre classe. Nous avons lu plusieurs de vos romans, Virus Livre, 3 ou La mort des livres, Les Robinsons de la Galaxie, Le Passager de la Comète et Nous attaquons la série des logiciels.
Où trouvez-vous l'inspiration, les romans de H.G. Wells ou d'autres auteurs de science-fiction vous ont-ils inspiré ?
L'inspiration, il y en a partout. Au collège, bientôt, votre professeur de français vous demandera de faire un texte libre, vous donnera un sujet de rédaction et vous dira peut-être « Vous avez 2 heures, dans 2 heures je ramasse, il me faut au moins 3 pages. » Grosse panique, comment on fait ? Bah, vous verrez, vous ferez. Vous trouverez des idées. Rien de tel que d'avoir un délai et un sujet pour être obligé d'écrire et finalement on y arrive. Alors moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas de prof de français pour me dicter un sujet. Je choisis moi-même les sujets de mes romans. Ces sujets, je les puise dans l'actualité. Ces sujets, je les puise dans la vie de tous les jours, dans les incidents, dans les disputes, dans les coups de fil, dans les scènes de la vie quotidienne. Il y a de l'imagination partout. Je pourrais vous raconter comment, à l'âge de 9 ans, notre fils, mon fils, Sylvain, s'est fâché parce que... Il y avait des carottes à manger alors que c'était le jour de mon anniversaire et qu'il n'aimait pas les carottes. On avait oublié qu'il n'aimait pas les carottes. Et il s'est levé, très en colère, en disant « Aujourd'hui, ça devrait être un jour de fête. C'est l'anniversaire de papa. Et puis, il y a des carottes. Et vous allez m'obliger à en manger. Et j'aime pas les carottes. Alors, on va se disputer. Ça va être une journée gâchée. Vous êtes des parents abominables. Plus tard, a-t-il ajouté, quand je serai président de la République, il avait 9 ans. C'était pas Macron encore, mais il avait 9 ans. Bon. J'interdirai la culture des carottes en France. Et si un jour je deviens dictateur du monde entier, je supprimerai toutes les carottes de toute la surface de toute la Terre, et comme ça, plus personne ne m'obligera à en manger. Et il s'est assis. Tu vas me dire, pourquoi vous me racontez cette histoire ? Parce que je me suis dit, bon sang, il y a une idée. L'idée d'un enfant qui part en guerre contre les carottes. Alors en fait, ça a été les poireaux, hein, puisque j'ai écrit « La guerre des poireaux », qui est l'histoire d'un enfant qui part en guerre, alors contre les poireaux, puis accessoirement contre son père aussi, parce que le papa, j'ai imaginé qu'il n'habitait pas Paris, mais la campagne, puis qu'il cultivait les poireaux, et qu'il y avait des poireaux à tous les repas, presque au petit déjeuner. Tu vois. Et donc, voilà, à la suite d'une dispute avec mon fils et d'un anniversaire un peu raté, je me suis dit, je récupère tout ça et j'écris un bouquin. Je l'ai écrit. J'ai écrit La guerre des poireaux. J'ai d'autres exemples. Ça, par exemple, il y a une dizaine d'années, avec Annette, invitée au salon du livre, à la foire du livre de Bruxelles, nous prenons le Thalys, c'est un train. Très beau train, on arrive à la gare de Bruxelles, on descend du train avec Annette et on tombe sur le quai devant des mèches de cheveux par terre. Des cheveux coupés, des cheveux d'une jeune femme sans doute, bouclés, châtains, magnifiques. Des cheveux coupés par terre, des mèches de cheveux, j'en revenais pas. J'ai posé les valises, j'ai regardé les mèches de cheveux et Annette m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Tu vois ?» Elle m'a dit « Oui, bah, et alors ?» Je dis « Alors c'est quand même pas courant. » Dans une gare, il y a des bagages abandonnés, parfois, quelquefois il y a une chaussette qui traîne parce que ça a dépassé d'une valise, mais là c'est des cheveux coupés. Elle me dit oui, et alors ? Et les gens passaient, ils regardaient, ils marchaient pas, ils étaient très respectueux de la mèche de cheveux, ils passaient. Et je dis, ben là, il y a une idée de roman. Ah bon, m'a dit ma femme, lequel ? Elle dit, je sais pas, mais il y a une idée. Et puis c'est tout. Et le soir, à l'hôtel, parce qu'on dormait à l'hôtel, elle me dit alors cette idée. Je dis, je sais pas encore, mais à ton avis, je me pose des questions. Ses cheveux coupés, c'est une jeune femme qui les a coupés. Mais on ne se coupe pas des cheveux sur le quai d'une gare. On se coupe des cheveux chez soi, devant la glace, dans la salle de bain, où on va chez le coiffeur, mais pas sur le quai d'une gare. Est-ce que cette personne prenait le train ou est-ce qu'elle descendait du train ? Allait rejoindre un amant ? Elle quittait sa maison, ses enfants ? Elle voulait faire une fugue, une fuite ? Elle voulait changer de visage ? Il y avait plein d'hypothèses dans ma tête. Et 6 mois plus tard, au restaurant, ma femme me demande « Dis-moi, cette histoire de cheveux coupés ?» Elle dit « Ça y est. » Le roman est prêt. Mais comment ? J'ai dit oui, ça y est. Ça a fait son chemin dans ma tête et j'ai l'idée du roman. Et là, j'ai une anecdote quand même à vous, une confidence à vous faire, c'est que je ne raconte jamais à personne, ni à mes amis, encore moins à mes parents et amis, et à mes enfants et pas à ma femme, ce que je veux écrire. J'écris, et quand le roman est fini, je donne le manuscrit, mais pas avant. Et je ne parle jamais de ce que je veux faire. Et là, Annette me dit, ton roman est prêt? Je dis oui. Jusqu'au bout, je dis oui. La fin, je dis oui, même la phrase finale, je l'ai. Et ça fascine un petit peu mon épouse, ça. Et elle me dit, raconte-moi. Et je lui ai dit, c'est dangereux. Elle me dit, je sais, mais ça fait rien, des idées t'en as à l'appel, c'est pas grave. C'est pas faux. Et je lui ai raconté. J'ai passé, je sais pas, une demi-heure à te raconter l'histoire de la femme aux cheveux coupés, qui ne s'appelle pas du tout la femme aux cheveux coupés, je vous donnerai pas le titre. Et elle m'a dit d'ailleurs, c'est génial, c'est très bien. C'est génial quand tu racontes l'histoire, après il faut l'écrire. Et quand tu l'as écrit, c'est peut-être moins génial, tu vois. Donc je suis très content et très fier qu'Annette ait trouvé l'idée géniale, parce que je lui ai raconté, mais je ne l'ai pas écrite. Et je ne l'ai pas écrite, et elle savait que je ne l'écrirais pas. Ce que j'ai raconté, j'ai plus envie de l'écrire. C'est dommage, mais c'est une histoire que je n'écrirai sans doute jamais. Mais il suffit d'une chose, tu vois, il suffit d'une mèche de cheveux coupés sur le quai d'une gare, ou d'une dispute avec son fils, une information à la radio, une phrase, avec un peu d'amour et beaucoup de chocolat. Autre anecdote très récente, elle a 2 ans, et on est à Noël. On a 4 petites filles, donc, hein, vous le savez maintenant, et Annette avait fait une mousse au chocolat. Et Annette, c'est la reine de la mousse au chocolat. Et c'est tellement bon que Estelle doit demander, « Dis, mamie, donne-nous la recette. Comment tu as fait cette mousse au chocolat ?» Et c'est Camille, sa sœur, cadette, qui dit, « Moi, je sais comment mamie, elle a fait la mousse. Avec un peu d'amour et beaucoup de chocolat. » Elle dit, « Stop, comment ?» Elle dit, « Avec un peu d'amour et beaucoup de chocolat. » Je dis, « J'achète. » J'ai acheté. Non, mais quand je dis que j'ai acheté, c'est vrai, parce que c'est devenu ça. Il y a 4 volumes en plus. Il y a 4 volumes. Donc il suffit, tu vois, ça dépend pas de grand-chose, hein, d'écrire une histoire. C'est comme ça que je trouve l'inspiration, grâce à mes petites filles, puis à mon fils, ouais, et puis aux mèches de cheveux sur les quais des gares. Et c'est plus rare. Est-ce que les romans de Herbert George Wells ou d'autres auteurs de science-fiction m'ont inspiré? Évidemment, j'ai lu tout Herbert George Wells. Et il y en a, il n'y a pas que de la science-fiction. Et j'ai fait des conférences sur Herbert George Wells, ouais. Mais il y a d'autres auteurs. Il y a d'autres auteurs, bien sûr, il y a George Orwell, il y en a plein. Mais je connais les romans de Herbert George Wells et il va de soi qu'ils m'ont fasciné et que j'ai été, pour des raisons professionnelles, amené à parler de cet auteur un peu particulier, oui, de cet anglais. Et il y a des romans qui m'ont vraiment fasciné, notamment La guerre des mondes est un récit que je connais très très bien et dont j'ai beaucoup parlé pour des tas de raisons qu'il serait trop long de vous détailler ici. Ouais. Mais tous les auteurs de science-fiction m'ont inspiré, oui. Les auteurs russes, les auteurs polonais, Stanislav Lem, Ivan Efremov, les frères Skogetsky, les Américains, Philip K. Dick, Robert Silverberg, que sais-je. Ce sont des romanciers que j'ai eu parfois l'occasion de rencontrer, ça va de soi. Les écrivains se rencontrent, bien sûr. Et nouer des liens avec des écrivains, parfois des écrivains étrangers, on a des anecdotes avec certains écrivains. Je ne vais pas tout vous raconter ici, ce serait trop long. Mais voilà, des liens se créent. Et du coup, quand on connaît un écrivain, on a envie de lire tout ce qu'il a écrit. Quand on fait sa connaissance pour de vrai, quand on sait où il habite, quand on connaît sa femme, ses enfants. Et c'est mon cas, c'est notre cas, évidemment.
Comment avez-vous eu l'idée d'écrire la préface de La machine à explorer le temps?
Je n'ai pas eu l'idée d'écrire la préface. C'est tout simplement les éditions Gallimard qui m'ont dit « Christian, tu es le responsable de la série Folio Junior Science-Fiction ». On va publier des romans de science-fiction et tu vas nous faire les préfaces. Voilà. Donc j'ai été sollicité pour faire la préface de romans de science-fiction chez Gallimard. J'ai aussi été sollicité pour faire, mais c'était à une certaine époque, les cahiers de fin de volume d'une collection un peu particulière qui à l'époque s'appelait Folio Junior Édition Spéciale avec le sous-titre « Et si c'était par la fin que tout commençait ?» Voilà. Donc tous les romans de science-fiction de cette collection-là, j'ai été amené à faire des cahiers pédagogiques. Voilà. Quelquefois, les écrivains sont amenés à faire des préfaces. Et moi-même, j'ai demandé à Bradbury, qui est un auteur américain, qui est mort il y a 3-4 ans aujourd'hui, de faire la préface d'un ouvrage que j'ai écrit, qui est un travail universitaire, qui est sorti aux presses universitaires. Et là, c'est moi qui ai demandé à Bradbury, est-ce que vous acceptez de m'écrire une préface? Voilà. Et il m'a écrit une préface très gentiment pour un livre que j'ai publié. Voilà comment on écrit une préface, hein. Robert Bigot m'a demandé parfois de faire une préface pour un de ses bouquins. Les auteurs demandent parfois à un ami qu'ils ont et dont ils jugent que c'est des gens plus importants qu'eux de faire une préface. On est toujours flatté d'avoir la préface d'un auteur qu'on admire. C'est vrai. Et moi, la seule préface que j'ai jamais demandée dans ma vie, c'est à Bradbury que je l'ai demandée. Et très gentiment, il l'a faite. Il me l'a envoyée. Là, il habitait Los Angeles, hein, il n'était pas à côté. Hein.
Quel est le premier livre que vous avez écrit et à quel âge?
Tout dépend de ce qu'on appelle un livre. La première histoire que j'ai écrite, elle était toute petite, elle faisait une page, 23 lignes. C'est une histoire que j'ai écrite au crayon. J'étais au cours préparatoire et j'étais déjà fasciné par l'écriture et par la lecture. Et j'ai écrit une histoire qui s'appelait « Les méchants sont toujours punis ». C'était un conte de 23 lignes. Mais il y avait un début, une fin. Et ma sœur, d'ailleurs, a tapé cette histoire à la machine. Donc je sais que la première histoire que j'ai écrite, très petite, très courte et très bête, je précise quand même, c'était un conte. Ensuite, je voulais montrer. J'ai continué d'écrire sur des cahiers, sur des carnets, au crayon. Mais tout ça n'a pas été publié. Et entre 6 ans et 23 ans, j'ai écrit 200 kilos d'histoires. Je compte mes histoires au kilo parce que j'ai gardé à peu près tout ce que j'ai écrit, y compris mes journaux intimes. Et tout ça tient dans une malle qui fait 200 kilos. Donc ça fait beaucoup de choses. Et j'ai transporté tout ça. Ça existe encore. C'est bizarre. Il y en a qui jettent, moi je garde. Pourtant, c'est vraiment nul tout ce que j'ai écrit entre 6 et 25 ans. Et 23 ans. Mais mon premier roman publié, qui est ici, et qui s'appelle « Aïo, Terre invisible », je l'ai tapé à la machine. C'est mon premier roman tapé à la machine, et j'avais 23 ans. Mais je précise qu'entre 6 ans et demi et 23 ans, j'ai écrit énormément. Beaucoup de poèmes à l'âge de 12 ans, des contes, des nouvelles, des récits, des romans à épisodes. J'avais une lectrice qui était ma future femme, et qui finalement m'encourageait. Elle lisait tout ce que j'écrivais. Parfois, elle le critiquait, mais je n'ai jamais cessé d'écrire. J'ai toujours aimé écrire, et j'ai toujours eu de l'entraînement, en quelque sorte. Les grands sportifs, finalement, s'entraînent, et les écrivains, ils s'entraînent aussi, et ils écrivent. Même si ce qu'ils écrivent n'est pas publié. Et jusqu'à l'âge de 23 ans, j'ai écrit sans être publié.
Est-ce dur d'être écrivain ?
La question est simple, et la réponse est, elle est difficile et ambiguë, parce que j'ai envie de dire non. C'est mon métier, c'est ma passion, j'aime écrire, et je serais très malheureux si je ne pouvais plus écrire. Mais bon, je peux toujours écrire et j'écris, c'est très bien. Mais en même temps, quand on veut écrire une histoire qui tient debout, qui est forte, qui est originale, qui est publiable, qui va prendre le lecteur par la main et l'entraîner jusqu'au bout, c'est pas gagné d'avance. Quand j'avais 8 ans, 10 ans, 15 ans, j'écrivais des histoires, je ne les relisais pas, je ne les corrigeais pas, je ne les améliorais pas. Et aujourd'hui, je sais que pour écrire une histoire qui tient la route, comme on dit, c'est pas gagné. Il faut supprimer beaucoup de choses, il faut aller à l'essentiel, il faut veiller, pas à l'orthographe parce que c'est très accessoire, mais je sais que vous êtes très attaché à l'orthographe, pas moi, mais à la concision, à la précision, à l'efficacité du récit, pour que ça avance, pour que le lecteur soit interrogé, soit captivé, pour qu'il ait envie de tourner la page. Et ça, c'est pas facile, oui. Et à chaque fois que je commence un roman, les mêmes problèmes se posent à moi, avec deux questions essentielles, toujours les mêmes. Quelle est la place du narrateur ? Est-ce que je dis « je » ? Est-ce que je dis « il » ou « elle » ? Et à quel temps est-ce que je vais écrire cette histoire ? Au présent ou au passé ? Et quand ces deux problèmes sont réglés, je peux commencer à avancer, mais tous les mêmes problèmes vont se reposer concernant la vraisemblance, le décor, les dialogues. Et quand il faut tout mettre en scène, tout mettre en jeu et penser à tout, ça devient très compliqué. Mais c'est passionnant. Alors je dirais que c'est passionnant et compliqué. Peut-être que c'est passionnant parce que c'est compliqué. Parce qu'il y a plein de choses à résoudre, et l'écrivain, il est face à sa feuille, face à son ordinateur, face au récit qu'il a dans la tête et qu'il doit traduire par des mots, des phrases. Et effectivement, c'est difficile. Je crois que c'est très très difficile, mais c'est passionnant. Alors peut-être me posez-vous cette question parce que vous avez l'impression qu'être écrivain, c'est passer à la télé, rencontrer des classes, répondre à des questions avec des interviews. C'est pas ça le métier d'écrivain. En ce moment, je vous parle du métier d'écrivain. Mais le métier d'écrivain, c'est d'être seul, chez soi, face à un cahier, face à un écran, et pendant des heures et des heures, se battre avec les mots, se battre avec les phrases, tenter d'organiser tout ça et de rendre une copie qui soit parfaite, ce qui n'est pas possible. Et donc, c'est s'efforcer d'être le plus clair possible, le plus efficace possible, et ça, ça dure des heures, et on est tout seul. C'est ça le métier d'écrivain. On est très seul quand on est écrivain. Les comédiens ne sont pas seuls parce qu'ils se font applaudir, mais les écrivains, une fois leur roman publié, ils restent seuls. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils rencontrent parfois leurs lecteurs, parce qu'on peut très bien rester chez soi. J'ai des amis écrivains qui ne rencontrent jamais leurs lecteurs. Et moi, je rencontre volontiers mes lecteurs, parce qu'au moins, on a un écho, on a une glace, on a un public. Les écrivains sont des gens très, très, très solitaires. Et c'est peut-être ça qui est dur, c'est d'être seul, en effet, face à ce travail énorme, compliqué et passionnant qu'est l'écriture.
Combien de livres avez-vous publié en tout ? Combien de science-fiction ?
Grosso modo, parce que je ne peux pas donner le détail, ce serait bien compliqué, j'ai publié 130 ouvrages. 130. Il y a de petites choses, il y a des récits courts, mais ce sont des livres. Un livre, j'ai des choses à vous montrer, ça c'est un livre. Il y a un numéro d'ISBN, il y a un code barre, c'est un livre. Et il va de soi que c'est un tout petit livre. Mais ça reste un livre. Et puis, ça aussi c'est un livre, ça fait 600 pages. Ça m'a demandé plus d'un an de travail et 10 ans pour y penser, pour mûrir l'histoire. Ça m'a demandé une semaine d'écriture. Ce sont deux livres. Donc dire que j'ai écrit 130 livres, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a aussi des articles, il y a des critiques, il y a des scénarios de bande dessinée, des scénarios pour la télévision. J'ai écrit les scénarios des Mondes engloutis, les scénarios de Raon, qui est une adaptation de la bande dessinée de Le Cureux. Bref, ça fait beaucoup de choses publiées, mais des livres comme ça, il y en a 130. On les trouve d'ailleurs avec leurs titres, leurs couvertures, leur traduction et le making-of de tous les livres que j'ai écrits, on trouve ça sur mon site internet. Il y en a à peu près 130. Et la science-fiction représente presque une moitié de ces 130 ouvrages. Je dois avoir une cinquantaine de romans ou de récits qui relèvent de la science-fiction. Et il y a une bonne vingtaine de romans ou de récits qui relèvent du roman policier. Et le reste, ce sont des romans historiques, des essais, des contes, des légendes, du fantastique, de la fantasy, des albums parfois. Donc voilà pour ma production. Et ça s'écoule durant quand même 47 ans. Donc ça fait longtemps que je publie des livres. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses.
Quel genre de livres avez-vous écrit en plus des polars et de la science-fiction? Avez-vous écrit des livres romantiques et combien?
Que de questions. Je crois avoir écrit dans tous les domaines. J'ai écrit dans le domaine de la mythologie, du fantastique, du merveilleux. J'ai écrit des contes, des albums, des romans pour les adultes, des essais sur la littérature, sur la science-fiction. Je crois vraiment avoir touché à peu près à tous les genres. J'ai aussi écrit des récits autobiographiques, peu, trois, mais des récits qui donc parlent de ma vie. Donc je parle de moi parfois dans les livres. Et la deuxième partie, c'est ce que j'ai écrit, des livres romantiques. Alors c'est une question qui me touche beaucoup parce que, qu'est-ce que c'est qu'un livre romantique? Dis-moi, pourrais-tu me donner une définition ou me dire en quoi un livre te paraît relever d'un...
Là où il y a de l'amour.
Là où il y a de l'amour. Alors je pense qu'il y a de l'amour dans tous les livres que j'ai écrits. Je pense qu'il y a des sentiments forts, ou du moins que j'ai essayé de mettre des sentiments forts dans tous les livres que j'ai écrits. Ce n'est pas parce qu'il y a un roman de science-fiction qu'il n'y a pas des sentiments dedans et de l'amour dedans. D'ailleurs, certains titres de mes romans de science-fiction sont assez évocateurs, puisqu'il y a « L'éternité, mon amour », « Un amour d'éternité », c'est de la science-fiction. Et pourtant, il y a des sentiments, il y a des gens qui se quittent, qui se retrouvent. J'ai aussi écrit des nouvelles, il y a « Les passagers de décembre ». C'est un conte de Noël. En réalité, c'est une grande histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, et aussi entre un homme et son fils. Voilà, je pense que dans beaucoup de mes romans, même si le titre n'en parle pas, « La fille de 3e B »,« Le pianiste sans visage », ont été classés comme des livres romantiques. Et puis d'autres auteurs ou critiques ont dit que c'était des livres sur la musique. Mais il y a aussi de la musique romantique, hein. Donc je pense que dans beaucoup de mes romans, il y a des sentiments, et j'essaie de faire passer des sentiments forts dans la plupart de mes romans, y compris quand il y a des romans policiers ou des romans de science-fiction. Dans mes romans policiers, par exemple, mon héroïne, qui s'appelle Logiciel, c'est son surnom, entretient des sentiments, parfois ambigus d'ailleurs, parce que parfois elle est très agacée par le garçon qui l'aime et qu'elle aime aussi, mais on ne s'aime pas toujours tout le temps et de la même façon. Donc les sentiments peuvent varier en fonction des événements. Et mon héroïne de roman policier est amoureuse de son adjoint, et son adjoint est amoureux aussi de Logiciel. D'ailleurs, ils finissent par se marier. Donc, tu vois, c'est du roman policier, mais il y a un mariage. Bizarre, hein? Donc je pense écrire des livres qui relèvent, en effet, oui, d'une forme de romantisme, c'est sûr. En même temps, dans romantisme ou dans romantique, il y a le mot roman, hein. Donc j'écris parfois des romans romantiques, c'est vrai, et romanesques. Alors combien j'en ai écrit des livres romantiques? Je ne sais pas, je ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas d'ailleurs, on dit. Donc les livres romantiques, ça dépend du lecteur. Le lecteur peut juger qu'un livre est romantique ou non. Encore une fois, un texte a des intentions quand l'auteur l'écrit, mais parfois le lecteur, lui, il voit d'autres choses, ou parfois il ne les voit pas. Il ne voit pas toujours ce que l'auteur a voulu y mettre, et parfois, le lecteur voit des choses que l'auteur n'a pas voulu mettre. Et c'est très très bien comme ça. Celui qui est le gagnant, c'est toujours le lecteur. Si le livre lui apporte quelque chose et une réflexion sur des sentiments, c'est très très bien.
Lequel de vos romans policiers préférez-vous ?
C'est le roman policier que je suis en train d'écrire. Et j'en suis à la page 16. Mais il sera très très bien. Sauf que quand je l'aurai fini, le suivant sera sans doute meilleur encore. Mon problème avec mes romans, c'est que ma préférence va toujours au livre que je suis en train d'écrire, parce que je reste persuadé que ce que je veux et ce que je vais écrire est meilleur que tout ce que j'ai déjà écrit. Heureusement. Si j'en étais pas persuadé, je m'arrêterais d'écrire. Bon, il se trouve que l'un de mes romans policiers a été beaucoup vendu. C'est L'Ordinateur. Il a été vendu à un peu plus de 400 000 exemplaires. C'est pas forcément mon roman policier préféré. Je pense qu'à mes yeux, le plus important, c'est 5 degrés de trop. Et il se trouve que, bizarrement, c'est celui qui a été le moins vendu. Mais à mes yeux, c'est le plus important. Je ne dis pas que c'est celui que je préfère. Je pense que c'est celui qui est le plus important. Et parmi l'ensemble de mon œuvre, on a oublié le O majuscule, hein, parce que mon œuvre, oh là là, mon œuvre. Quel est mon roman préféré ? C'est compliqué de dire et de répondre à une question, parce que les écrivains ne relisent pas en général leurs propres romans. Et pour dire ce qu'on préfère, il faut bien connaître et surtout effectuer un choix. Je ne peux pas effectuer un choix parmi tous les romans que j'ai écrits, il y en a 130. Certains m'ont laissé un vague souvenir, d'autres sont très présents dans mon esprit. Je pense que mon journal intime de mes 16-17 ans, que j'ai repris sous une forme romanesque, ça s'appelle L'amour pirate, c'est sans doute le roman que je juge le plus important parmi tous ceux que j'ai publiés. À mon cœur. Ah, ça c'est un livre romantique. Parce qu'à 16 ans, j'étais amoureux. Voilà. Et ce n'est pas exceptionnel.
Ah, réaction d'enfant.
Vous semblez très étonné qu'on puisse être amoureux à 16 ans. Donc, parmi tous mes romans, il y en a sans doute beaucoup qui vont disparaître et certains qui vont rester. Et je ne suis pas sûr que les livres qui vont rester sont mes livres préférés. Mais s'il y en a un dont j'aimerais qu'il reste, c'est sans doute L'amour pirate. Mais je suis à peu près sûr que c'est celui qui sera le plus vite oublié. Mais c'est comme ça. L'auteur ne choisit pas lequel de ses romans est le plus important, le plus vendu, le plus lu par les lecteurs. Ce sont les lecteurs qui choisissent. Et puis c'est la postérité qui choisit. Il y a des livres qui restent 100 ans, 200 ans, 300 ans après la mort de l'auteur. Et l'auteur, il serait très étonné de savoir que c'est telle œuvre qui est restée. Il ne le pensait peut-être pas.
Êtes-vous édité dans d'autres pays ?
Je suis publié dans 25 autres pays, oui. Alors lesquels ? C'est sur mon site internet. L'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Brésil, l'Argentine, le Japon, la Chine, la Corée. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pays. Hein. La Suède, le Danemark, 25 pays. 25 pays. Ouais. Oui, un auteur est traduit. Je suis un vieil auteur, est traduit quand même dans plusieurs pays. Oui, bien sûr.
Pourquoi avez-vous mis 4 ans entre les deux derniers romans de logiciel ?
Alors moi, je n'ai pas mis 4 ans. En réalité, il y a un gros décalage entre le temps mis par l'auteur pour publier un livre et le temps mis par l'éditeur pour le sortir en librairie. Moi, j'écris régulièrement. J'écris tous les jours, à peu près tous les jours. Mais je ne publie pas 1, 2 ou 3 livres par an. C'est l'éditeur qui le décide. Quand j'ai écrit Coup de théâtre, la première enquête de logiciel, je n'imaginais pas qu'il y aurait une suite. C'est 2 ans après que l'éditeur, face au succès modéré, mais au succès quand même inattendu de Coup de théâtre, c'est face à ce succès et à 2 prix qu'a reçu Coup de théâtre que l'éditeur m'a dit « Ce serait bien que t'en écrives un deuxième avec les mêmes personnages. » Ah bon ? J'en ai écrit un deuxième. Ça a été L'Ordinateur. Et L'Ordinateur, à l'étonnement général, y compris le mien, a eu beaucoup de succès, puisque il y a une question qui ne m'a pas été posée qui était quel livre a été le plus vendu ? C'est sans doute L'Ordinateur. Il y en a eu un autre, il y a eu La Machination, mais ça c'était il y a 25 ans, 30 ans, 40 ans. Donc c'est une vieille histoire. Mais récemment, ces 20 ou 25 dernières années, c'est L'Ordinateur. Et c'est le deuxième. L'éditeur m'a dit aussitôt, on fait une série, ça s'appelle Les Enquêtes de logiciels, et tu vas nous en livrer un tous les ans. Je ne voulais pas en livrer un tous les ans. J'en ai livré un tous les 2 ans. Et je me suis astreint à n'en livrer un que tous les 2 ans parce que je voulais écrire autre chose que des romans policiers. Donc entre 2 romans policiers, j'écrivais 3 ou 4 romans. Je ne publiais un roman policier, une enquête de logiciel, que tous les 2 ans. Et puis après Apocalypse, j'ai écrit la suite d'Apocalypse, j'ai écrit une nouvelle enquête de logiciel, c'est Fatal Gaming, qui ne s'appelait pas d'ailleurs Fatal Gaming, qui s'appelait Google à Google, très exactement. C'était un titre qui ne plaisait pas beaucoup à l'éditeur. Et l'éditeur, après avoir lu Google à Google, m'a dit « Il faut changer beaucoup de choses. La première partie ne nous plaît pas. Tu parles de réfugiés syriens, tu parles d'une arnaque immobilière, tu parles des migrants. Ça n'a rien à voir dans un roman policier. » Alors qu'à mon avis, c'était une grande partie du problème. Tout était lié, à mon avis, sur un terrain qui était guigné par une société immobilière et qui était occupé par des migrants et qui était directement lié à la suite des enquêtes de mon personnage, qui d'ailleurs voulait déménager et avoir un appartement dans l'ensemble immobilier sur ce nouveau terrain. Et du coup, l'éditrice a bloqué le bouquin. Elle m'a dit « Il faut que tu changes la première partie. On attend que tu la changes. » Je ne voulais pas la changer. Et puis mon éditrice a laissé passer du temps. Elle s'est occupée d'autre chose et moi je me suis occupé d'autre chose. J'ai publié d'autres livres ailleurs. Et puis il se trouve que pour des raisons qu'il serait long et compliqué et délicat d'expliquer ici, cette éditrice qui retardait la sortie de mon livre est partie. Elle a quitté la maison d'édition. Elle a été remplacée par une autre éditrice qui ne connaissait pas du tout les enquêtes de logiciels, qui n'en avait lu aucune. Et qui, 2 ans et demi après, a découvert ce manuscrit, m'a appelé et m'a dit « Pourquoi ce livre n'est-il pas sorti ?» Et comme tout finit par se savoir, je lui ai dit « La directrice littéraire précédente, qui a été remerciée, voulait que je change beaucoup de choses et je ne voulais pas changer. Soit, m'a-t-elle dit, je vais le lire à mon fils qui a 12 ans et qui va juger si, oui ou non, ça lui plaît. Comme ça, hein, attention. Hein. Ça a été positif et elle m'a dit, ah non, mais c'est très très bien, on ne change rien et on y va, je le publie. Bon, très bien. Sauf que le programme était bouclé et elle m'a dit, on ne pourra le sortir qu'en été 2017. Elle dit, c'est pas grave, moi ça m'est égal, je continue ailleurs. Voilà pourquoi 4 ans se sont écoulés entre la fin d'Apocalypse et la sortie de Fatal Gaming. Avec quand même un petit inconvénient, c'est qu'à la fin d'Apocalypse, le dernier mot c'est « Je suis enceinte ». Mon héroïne, lieutenant de police, est enceinte. 4 ans se sont écoulés entre la fin d'Apocalypse et Fatal Gaming. Et dans Fatal Gaming, on va apprendre quel est le sexe de l'enfant qu'elle porte. Donc ça fait 4 ans, voilà. Or, il me semble qu'habituellement, quand on accouche d'un enfant, il ne faut pas 4 ans, hein. Il faut 9 mois, hein. Voilà. Oui, on est bien d'accord. Je suis désolé, je ne suis pas maître de la publication de mes romans. Moi, j'écris très régulièrement, mais il se trouve que parfois, je refuse de modifier mon texte. Il m'arrive d'accepter de le changer, mais là, je ne voulais pas. Et c'est la raison du retard avec lequel la suite des enquêtes de logiciels a été publiée. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de mon fait. Moi, j'avais écrit la suite régulièrement 2 ans après.
Êtes-vous en train d'écrire un nouveau livre ?
Je pense qu'un écrivain est toujours en train d'écrire un nouveau livre, oui. Je suis en train d'écrire un nouveau livre. Deux textes vont sortir, là. Prochainement, il y a un livre un peu particulier qui commence en français et qui finit en allemand. Le dernier chapitre est entièrement rédigé en allemand. C'est pour une collection un peu particulière qui s'appelle Tiptong. C'est chez un éditeur pour lequel j'ai peu écrit encore. C'est Cyros. Et c'est une commande. J'ai reçu un coup de téléphone au mois de juin dernier. Et c'était pour une commande urgente. Et c'est une proposition que j'ai acceptée. J'ai donc écrit en juillet et en août un roman, bilingue en quelque sorte, en français et en allemand, qui se passe en Autriche, à Vienne, et c'est une véritable histoire, et je sais qu'elle va sortir en avril, probablement 2018. Alors ça, c'est pas un roman que je vais écrire ou que je suis en train d'écrire, il est écrit. J'ai aussi un petit roman policier qui s'appelle « Une rançon pour Bichon », et là c'est un scoop, parce que vous n'êtes pas au courant, personne n'est au courant. Mais le livre est écrit, et il sort lui aussi au mois d'avril 2018. C'est une enquête policière de mon héros qui est un chat, c'est un chat policier, il s'appelle Hercule. Et c'est les enquêtes d'Hercule, chat policier. Et ce livre est écrit et va sortir au mois d'avril. Et donc ça fait 2 livres qui vont sortir en 2018. Mais je suis déjà en train d'écrire en effet un nouveau livre. Oui, bien sûr.
Cette émission a été réalisée par Alexandra Joss avec la complicité de Carole Lagarza et de Claire Bigeot pour l'habillage sonore en partenariat avec l'école de Riom et l'énergie sans faille de Sandrine Dubos, l'institutrice des élèves de CM2. Retrouvez cette interview en 3 parties sur le site ondecourte.fr. Cette émission est placée sous licence Creative Commons. Paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Tous les sons qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placés sous licence libre.